Radio de la Paix, il est 7 heures. Le journal de 7 heures, César Yao.
Bonjour à tous, tout de suite le sommaire de ce mardi 7 heures. Déclaration de patrimoine, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance passe à la phase des sanctions contre les assujettis réfractaires. Une cérémonie de démarrage effective des mises en demeure par exploit de commissaire de justice a eu lieu hier lundi au siège de l'institution. À Abidjan abrite en ce moment même le second forum d'affaires et d'investissement Côte d'Ivoire-Amérique du Nord. Objectif promouvoir les échanges commerciaux et les investissements directs étrangers. Dans l'actualité internationale présidentielle au Libéria, George Oppong Weah et Joseph Boakai, le second tour s'annonce très serré. Aoussi Potin passera en revue les titres des journaux ivoiriens de ce mardi. Et puis en fin d'édition, Jean-Claude Comé recevra dans le cadre de l'invité de la rédaction, professeur Jean-Marie Kouakou, professeur de lettres à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Cocody pour évoquer la question du retour annoncé de l'ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, qui affirme vouloir contribuer à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous. La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance a procédé hier lundi au lancement des mises en demeure des assujettis à la déclaration de patrimoine. Cette cérémonie de démarrage des mises en demeure des assujettis à la déclaration de patrimoine par exploit de commissaire et de commissaire de justice a pour but de faire les mises en demeure des assujettis à la déclaration de patrimoine qui n'ont pas encore satisfait à cette obligation constitutionnelle. On fait le point avec Gino Cardin.
Avant la remise de la liste des personnes assujetties au président de la Chambre nationale des commissaires de justice, le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, Epiphane Zorobi, a fait le point de la situation.
Au 31 octobre 2023, les magistrats, les membres du gouvernement et les personnes occupant les hautes fonctions dans l'administration publique ont un taux de déclaration de patrimoine supérieur à 80%. En revanche, les personnalités élues, notamment les députés, les sénateurs, les maires et les présidents de conseils régionaux, affiche un taux de 60%.
L'obligation de déclaration de patrimoine est une obligation constitutionnelle. Pourtant, 20% des assujettis à ce jour n'ont pas satisfait à cette obligation, au dire de Epiphane Zorobi.
Face à cette attitude de défiance vis-à-vis de la loi fondamentale, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance ne saurait rester longtemps impassible. La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance fera appliquer les sanctions prévues par la loi aux assujettis de déclaration de patrimoine qui refusent de se soumettre à cette obligation dans les délais prescrits.
La mise en œuvre de ces sanctions est subordonnée à la délivrance d'un rappel par exploit de commissaire de justice aux assujettis. D'où cette cérémonie avec la Chambre nationale des commissaires de justice de Côte d'Ivoire. Son président, Cissé Yao Jules.
Nous avons pris la pleine mesure de la mission qui nous incombe conformément à la convention qui nous lie à la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance.
Les sanctions qu'encourent les réfractaires sont le paiement d'une amende égale à 6 mois de rémunération perçue ou à percevoir dans la fonction occupée ou le mandat exercé.
Tout autre chose dans ce journal, l'Institut d'études stratégiques et défense organise en ce moment la 5e session internationale de réflexion stratégique autour du thème espace aquatique et couverts forestiers en Afrique, défis sécuritaires et enjeux pour le développement en lien avec la sécurité. On en sait plus avec le colonel major Hervé Kofi, président du comité scientifique de cette 7e session.
Chaque année donc, de ce depuis 2015, l'Institut d'études stratégiques et de défense de Côte d'Ivoire organise une session internationale de réflexion stratégique réunie cette année 2023 en organisant en juin une session nationale de réflexion stratégique SNRS. L'objectif visé par ces assises est de renforcer les capacités de hauts responsables de l'administration publique, du secteur privé et des forces armées en matière stratégique sur des problématiques nationales et internationales à travers des partages d'expériences. Au-delà des échanges et des enregistrements mutuels, il s'agit, à travers ces rendez-vous, de mettre en relation des experts aux compétences variées sur les thématiques actuelles. Les forces de défense et de sécurité africaines doivent faire face à la protection des ressources de leurs États, ressources qui se trouvent pour la plupart dans les espaces aquatiques et sous le couvert végétaux. Une meilleure connaissance et définition des concepts de ces milieux permettra aux participants de mieux maîtriser les enjeux de développement pour nos États.
Voilà, c'était à l'instant colonel-major Hervé Kofi, président du comité scientifique de la 7e session de l'Institut d'études stratégiques et défense. À l'initiative des forces de défense et de sécurité, plus d'une vingtaine de leaders de la société civile de Mans, hommes de médias locaux, ont passé en revue les élections municipales et régionales du Tonkpi, élections qui se sont déroulées sans heurts dans l'ensemble. Stéphane Adams, notre correspondant dans la région du Tonkpi, nous en parle.
Cette rencontre bilan, après les élections municipales et régionales couplées dans le Tonkpi avec les leaders de la société civile, ONG et hommes des médias locaux, répond à un besoin selon le préfet de police de Mans, Ouattara Dong Ibrahima, commissaire divisionnaire du Tonkpi.
Les messages d'élections apaisées que vous avez pris comme cheval de bataille tout au long de ces élections. Rendre possible des élections sans heurts. Le satisfait est là. Ces élections se sont très bien déroulées dans notre zone pour ce qui est du Tonkpi. C'est pourquoi je me suis permis de vous rappeler pour que non seulement de vive voix on se dise merci mutuellement, mais qu'on puisse consolider cela. Toute cette accalmie, à la fin, c'est nous la police que ça aide. Parce que ça nous donne le temps de penser sincèrement sécurité des biens et des personnes.
Une initiative saluée par les participants en fin des rencontres.
Diomande Fanta, présidente des femmes de lycée club. Je suis vraiment très heureuse parce qu'on constate la paix à moi. Cette année, la jeunesse a compris, il n'y a pas eu de bruit. C'est la première fois que les élections se passent dans la paix, dans la tranquillité. Je félicite aussi les candidats. Nous remercions aussi notre préfet de police, a fait un bon travail.
Bamba Ali, président du CNJCI. Vous avez constaté avec moi que le préfet de police, avec tous ses participants, étaient heureux qu'il y a eu une élection apaisée, sans violence, et ils étaient comblés. Merci au préfet de police pour l'initiative.
Le commissaire divisionnaire Ouattara Dong Ibrahima, en charge aussi de la région d'Iguemont, entend prendre toutes les dispositions sécuritaires pour la reprise des élections municipales et régionales dans cette partie du pays. Stéphane Adams, Mans, Radio de la Paix.
Abidjan abrite le second forum d'affaires et d'investissement Côte d'Ivoire Amérique du Nord. Il s'agit de promouvoir les échanges commerciaux et les investissements directs étrangers dans le pays. On en parle avec Mata Touré.
Il s'agit surtout de créer un cadre d'échange entre le gouvernement de Côte d'Ivoire et les fêtières porteuses de projets et de potentiels investisseurs lors des rencontres B2J ou encore B2B et de permettre aux investisseurs nord-américains d'avoir une vision claire des conditions d'accès au marché ivoirien. Anza Kamara est le délégué général du service de promotion économique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
En conformité avec les financements reçus par zone géographique, la Direction générale de la diplomatie économique a confirmé que le SPECI America a appliqué 12 missions économiques. Il est à noter que le SPECI s'attend à une promesse d'investissement de moins de 3 milliards de dollars pour l'année 2023.
Jessica Davis-Ba, ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, est revenue sur l'opportunité de ce forum pour les différentes parties.
Il existe des possibilités énormes pour les opportunités commerciales et de nouer le partenariat mutuellement bénéfique. La Côte d'Ivoire dispose d'une grande variété de produits exportables, notamment des produits agricoles, des minéraux critiques, des textiles et des objets d'artisanat. Ces produits ont le potentiel de trouver un marché favorable en Amérique du Nord.
L'opportunité a été donnée aux entreprises américaines présentes en Côte d'Ivoire de témoigner de leurs expériences et des intentions d'investissement seront matérialisées par des signatures de conventions.
Industrie pétrolière et gazière en Afrique. À présent, une banque africaine de l'énergie sera créée en 2024. C'est notamment l'une des décisions de la 44e session du Conseil des ministres de l'Organisation des producteurs africains du pétrole. Quel pourrait être l'impact de cette décision dans la performance du secteur pétrolier et gazier africain? Élément des réponses avec Serge Parfait Diomane, il est expert international en énergie et en pétrole.
La création de cette banque est à n'en point douter une bonne nouvelle qui vient déjà à point nommé parce qu'il s'agit en réalité de se donner les moyens de pouvoir éradiquer ce paradoxe énergétique que connaît le continent africain, c'est-à-dire un continent immensément doté de richesses naturelles énergétiques, mais malheureusement qui se trouve être très dépourvu en termes d'offres énergétiques. C'est-à-dire que nous vivons dans un continent qui dispose de plusieurs ressources naturelles exploitables, mais ces ressources restent inexploitées. Et donc, l'avènement de cette nouvelle banque est motivé par le besoin de s'unir pour pouvoir se donner les moyens financiers d'atteindre les objectifs infrastructurels qui créent aujourd'hui un problème au continent. Bien sûr, nous savons tous que pour se développer, il ne suffit pas seulement d'avoir des ressources énergétiques disponibles, mais il faut pouvoir les exploiter avec des infrastructures modernes, avec un plan rigoureux de formation du personnel et aussi des moyens adéquats pour gérer tout ce qui est traitement environnemental qui gravite autour des énergies aujourd'hui.
Voilà, c'était Serge Parfait Dioman, expert international en énergie et en pétrole. Dans l'actualité internationale, près de 2,4 millions d'électeurs sont appelés aux urnes aujourd'hui mardi. Et là, nous sommes au Libéria pour le second tour de la présidentielle. Le président sortant, Georges Panguia, brigue un second mandat. Au premier tour, il était en tête du scrutin avec 7000 voix, de plus que son challenger. À 57 ans, l'ancien Ballon d'Or promet de poursuivre sa politique gratuite de l'enseignement, développer les infrastructures, améliorer le système de santé. Et bien de son côté, Joseph Boakai, 78 ans, joue sa dernière carte. Il connaît bien l'appareil d'État car il était vice-président pendant 12 ans. Son alliance avec l'ancien chef de guerre, Prince Johnson, une personnalité controversée et redoutée, lui a permis de cumuler de nombreuses voix dans le comté de Nemba, une zone fortement peuplée dans le nord. Sur le fond, Joseph Boakai promet de sauver le pays en mettant fin, assure-t-il, à la mauvaise gouvernance. À présent, la revue des titres des journaux ivoiriens avec Aoussi Potin. Bonjour Potin.
Bonjour à vous César, merci pour le punch matinal depuis Yopougon, hein, voilà, n'est-ce pas?
Absolument.
Voilà. Alors César, il faut noter que nos principaux tabloïds parus ce jour ont fait la part belle hein, dans leur titre de une à l'annonce faite par l'ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, ex-premier ministre aussi, hein, annonce selon laquelle, fatigué de l'exil, il entend retrouver sa terre natale. Bon, en tout cas, il dit il va retourner. Alors, la question se posait, est-ce en Côte d'Ivoire ou est-ce en Afrique? Alors, certains journaux ce matin affichent ce sujet à leur une. Commençons par Soir Info, qui titre ainsi, Soro reçu par le chef de la junte parlant du Niger hier, ce qu'il n'a pas dit dans son dernier discours. Et puis, de son côté, le journal Le Temps, de titrer, retour annoncé de l'ex-PAN, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, bien sûr, Soro met Ouattara sous pression, laissant entendre ce quotidien, bien sûr, que le retour annoncé de l'ex-président de l'Assemblée nationale troublerait le sommeil du chef de l'État. Et puis le patriote qui, lui, parlant toujours du même sujet, a préféré se tourner vers un ex-compagnon de Soro Guillaume, savoir Kanigi Soro, qui extrait donc de son propos, dit ceci, Soro est à bout de souffle. Et puis sur un ton un peu plus humoristique, hein, voilà, le nouveau réveil aussi s'intéresse au même sujet et titre ainsi avec un clin d'œil à la Cannes, retour d'exil et Cannes 2025, question Soro sélectionné, point de suspension. Alors est-il sélectionné pour la Cannes ou sélectionné pour le retour d'exil? En tout cas, c'est l'interrogation que soulève le nouveau réveil qui amplifie le titre de une avec les sous-titres suivants, le fugitif qui veut rentrer reçu par le chef de la junte nigérienne hier. Terminons César par notre voix qui s'intéresse donc à l'autorité, la bonne gouvernance, qui a un nouveau responsable, Epiphane Zorobi, et donc il titre ainsi, refus de déclaration de ses biens, place aux sanctions.
Oui, les journaux ivoiriens très actifs, n'est-ce pas, en ce début de semaine, n'est-ce pas, aussi poté.
Absolument.
Alors, à présent, l'invité de la rédaction sortie de l'ex-président de l'Assemblée nationale, là aussi poté en parlait à l'instant, Guillaume Soro, qui, dans une vidéo publiée dimanche dernier sur son compte X, ex-Twitter, disant qu'il met fin à son exil entamé en 2019, il affirme en outre vouloir contribuer à la réconciliation ici en Côte d'Ivoire. Alors, quelle lecture faire de cette déclaration? Des éléments des réponses avec Jean-Marie Kouakou. Il est professeur de lettres à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Cocody, il répond aux questions de Jean-Claude Comé.
Professeur Jean-Marie Kouakou, bonjour.
Bonjour, monsieur Comé.
L'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire est dominée par cette déclaration de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, qui, dans une vidéo, a annoncé mettre fin à son exil. Comment vous recevez cette annonce déjà?
Bon, moi, je l'ai reçue comme une bombe, quelque chose d'assez surprenant, parce que c'était imprévu. Et c'est une stratégie de communication fort bien menée. C'est-à-dire qu'il a vraiment insisté sur la part affective de ce qu'il voulait communiquer. Et donc, de ce point de vue, c'est très, très bien joué. C'est-à-dire que la tonalité affective, elle est très calme et elle présente tous les aspects dans lesquels l'individu dit avoir été attaqué. Et donc là, on a vraiment une image, une figure de victime, surtout victime harcelée, en fait, et qui donc se présente comme telle et qui, en désespoir de cause, se dit « je suis obligé de mettre fin à mon exil ». C'est ainsi que le texte se présente.
Cet aspect-là nous intrigue. Oui. Quelqu'un qui était en exil, lui, il a indiqué un peu le parcours qu'il a eu à suivre. De la France en Belgique, en Turquie et bien sûr dans une partie de l'Asie. Aujourd'hui, décider de mettre fin à son exil, est-ce qu'on doit comprendre que c'est quelqu'un qui se résigne à venir affronter donc les autorités judiciaires de son pays puisqu'il y a un mandat contre lui?
Ah ben c'est là qu'il faut peut-être faire l'autre point de la lecture, c'est le volet stratégique de cette communication en fait. On voit bien qu'il y a un positionnement stratégique et qui met aussitôt à la fois ses adversaires présumés en alerte et qui met aussi surtout ses partenaires en position de garde. Il dit « je viens, j'affronte en fait ». C'est pas dit, mais c'est sous-entendu « je vais contre ce qui va s'opposer à moi ». Et donc, c'est une alerte, un appel à tous ceux qui peuvent les défendre, de les défendre en fait. Donc là, qu'est-ce que ça préfigure? Est-ce qu'on va vers la confrontation? Il faut bien peut-être le craindre, parce que en même temps aussi, le discours que j'entends du parti au pouvoir est un discours qui n'appelle pas à lever le pied. Au vu de ce qu'il dit, mais comme c'est stratégiquement bien mené, rien ne précise ni le jour, la date de cette fin d'exil, rien ne le précise du tout, rien ne précise la manière dont l'exil sera aussi arrêté. Voilà, il ne dit pas je rentre tel jour, il ne dit pas je rentre par avion, je rentre par temps, je rentre par ceci, cela et tout, je mets fin à mon exil. De quelle manière? C'est cette manière qui nous intrigue tous. Rien n'est précisé, mais tout cela nous alerte sur quelque chose qui est fondamental. Et moi, c'est aussi en même temps aussi un appel à relire l'histoire. Il faut que chacun de nous soit vigilant vis-à-vis de l'histoire. Parce que dans ce conflit qui oppose Guillaume Soro avant dans le parti au pouvoir, qui aujourd'hui est dans l'opposition à ce pouvoir, on retrouve un schéma qu'on connaît en Côte d'Ivoire. Est-ce que, en lisant l'histoire, on ne pourrait pas aborder cette relation d'une autre manière? Pourquoi ne pas revenir à autre chose, à une autre approche plus adoptive, plus tolérante, plus résiliente quelque part?
Alors justement, en parlant d'autre approche, est-ce qu'on ne peut pas traduire aussi cette déclaration de Guillaume Soro comme une main tendue au pouvoir, puisqu'il insiste sur la réconciliation? Il veut contribuer à la réconciliation dans son pays.
Moi, j'y verrais une main tendue, mais plutôt dans une très faible proportion. Ça ne ressemble pas, de mon point de vue, tel que je lis son texte, tel que je l'entends. Il sous-entend clairement que je n'attends plus rien de ceux qui ne veulent me voir, si je repense à l'expression qu'au cimetière. Je n'attends plus rien de cela. Donc, je viens, je me présente, advienne que pourra. Il dit quelque part qu'il n'a pas la main. Voilà. Donc, du coup, est-ce que c'est vraiment une main tendue? Il n'a pas la capacité, d'après ce qu'on lit dans son texte, il n'a pas la capacité de tendre la main et d'offrir sa main.
Pourquoi il insiste sur la réconciliation dans sa déclaration?
Mais il y a deux niveaux de réconciliation. Est-ce que c'est la réconciliation entre individus autrefois amis, aujourd'hui en colère, les uns contre les autres? Mais c'est une réconciliation générale de la nation, parce que la Côte d'Ivoire s'est effritée de toute façon au vu de tout ce qui s'est passé depuis plusieurs années. Est-ce qu'il s'agit de réconciliation entre lui, individu, Guillaume Soro, et le président Alassane Ouattara? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est à une échelle plus large? Contribuer, ça veut dire quoi exactement? Il y a trop de sous-entendus et de non-dits dans son texte. Et c'est ça qui est intriguant.
Alors, du côté du pouvoir, avec une telle déclaration, quelle attitude à avoir, vous, en tant qu'observateur?
La première, c'est une réponse au niveau du discours aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu un discours tenu par Guillaume Soro. Le pouvoir aujourd'hui devrait répondre par un discours. Et de mon point de vue, le contenu de ce discours devrait veiller à être rassurant, à dire nous avons compris ton message, on arrête les poursuites et tout, viens en paix à la maison, comme ça a été fait avec Blé Goudé, comme ça a été fait avec Laurent Gbagbo. C'est ce discours que le pouvoir, à mon avis, devrait tenir. En tenant compte de ce qui s'est déjà passé dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, en tenant compte de ce qui s'est déjà passé dans l'histoire du monde entier, une attitude conflictuelle attisée avec des braises ardentes continuellement n'apporte jamais de solution définitive ni durable. Et c'est le pouvoir qui devrait dire « je lui tends la main ». Soro n'est pas en position de dire « je tends la main », il n'a pas la main. Et donc le pouvoir devrait tendre la main, de mon point de vue, et passer à autre chose. On ne peut pas rester dans une belligérance qui ne s'arrête pas.
Une information émanant donc du service de communication de Guillaume Soro indique qu'il est depuis le samedi 11 novembre au Niger. Quel commentaire cela vous inspire ?
Et qu'il soit au Niger, ça confirme un peu l'ambiance dont nous avons parlé tout à l'heure. Et ça confirme peut-être encore plus ce que nous disions, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un enjeu de belligérance dans l'air.
Professeur Jean-Marie Kouakou, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, monsieur Koumé. Merci.
Voilà à l'instant, professeur Jean-Marie Kouakou, professeur de lettres à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Cocody, répondait aux questions de Jean-Claude Koumé dans le cadre de l'invité de la rédaction. Et voilà qui referme les pages de ce journal. Le rappel des titres qui l'ont orienté. Déclaration de patrimoine, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance passe à la phase 2 des sanctions contre les assujettis réfractaires. Une cérémonie de démarrage effectif des mises en demeure par exploit de commissaire de justice a eu lieu hier lundi au siège de l'institution. Abidjan abritant ce moment même le second forum d'affaires et d'investissement Côte d'Ivoire-Amérique du Nord. Objectif, promouvoir les échanges commerciaux et les investissements directs étrangers. Et puis dans l'actualité internationale, présidentielle au Libéria, entre Georges Panguia et Joseph Boakai, le second tour s'annonce très serré. Et c'est la fin de cette première édition de l'actualité sur Radio de la Paix. Prochain rendez-vous, 8h.